Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal de grâce Amzati Masanzi. Les titres, les forces conjointes FRDC, armée ougandaise, ont lancé depuis le début de la semaine les opérations contre les rebelles ADF dans le groupement à Bangolé. Nous sommes dans les territoires de Mambasa, à Nitouri. Objectif, démanteler les bastions de ces groupes armés qui déstabilisent la population à l'empêcher de vaquer à ses activités agricoles. Le monde célèbre ce vendredi 31 mai la journée sans tabac sous le thème « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac ». À l'occasion, le programme national de lutte contre la toxicomanie et le tabagisme a organisé une matinée scientifique aujourd'hui ici à Kinshasa pour sensibiliser la population quant à ce. Le professeur Maïndo est l'invité de la rédaction ce soir, facilitateur d'un atelier de 3 jours organisé à Kisangani par les bureaux des affaires politiques et des droits de l'homme de la MONUSCO sur la cohabitation pacifique entre les communautés Mbole et Lungola. Il nous parle des recommandations issues de ces assises. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Tout d'abord cette information. La Cour constitutionnelle confirme ce vendredi 31 mai Grace Bilolo comme gouverneur de la province du Congo central. Elle déclare l'arrêt du Conseil d'État qui a annulé cette élection contraire à la Constitution. Le président de cette Cour, Dieudonné Kamuleta, recommande à la Cour d'appel du Congo central de proclamer Grace Bilolo vainqueur. Le Conseil d'État avait décidé le 20 mai d'annuler l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central pour raison d'irrégularité. Dans sa décision, cette institution judiciaire avait demandé à la Commission électorale nationale indépendante CENI de réorganiser ses scrutins. La décision du Conseil d'État intervenait 18 jours après que la Cour d'appel du Congo central a validé au premier degré l'élection de Grace Nkwanga Bilolo comme gouverneur de cette province au détriment de Guy Bandou. Guy Bandou, gouverneur sortant, avait contesté cette élection en appel devant le Conseil d'État. Il s'est appuyé sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une transaction d'argent entre les députés provinciaux devant l'isoloir. Province de l'Ituri, les forces conjointes FRDC, armée ougandaise, ont lancé depuis le début de la semaine les opérations contre les rebelles dans les groupements Bangolé, dans les territoires de Mambasa. Objectif, démanteler les bastions de ces groupes armés qui empêchent la population de cette entité coutumière d'évacuer à ses activités agricoles, indiquent des sources de sécurité. La société civile de ces territoires demande aux autorités militaires de poursuivre ces opérations jusqu'à l'anéantissement de cette force négative. Isaac Raymond.
Des détonations d'armes lourdes sont attendues depuis le début de la semaine dans plusieurs localités du groupement Bangolé dans les territoires de Mambasa. Ces opérations se déroulent dans la profondeur de la forêt de cette entité où ces rebelles ont installé leurs bastions à partir desquels ils planifient des attaques contre la population, indiquent des sources locales. La société civile déclare que ces rebelles ont fui la pression militaire au Nord Kivu pour ériger leur base dans les territoires de Mambasa. Cette structure ajoute que leur présence empêche les habitants des dizaines de villages du groupement Bangolé d'accéder aux champs. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme déplore aussi le meurtre des 2 passagers qui étaient à bord des 2 voitures qui sont tombées dans l'embuscade des ADF. Les drames s'est produit jeudi sur les tronçons Kainama-Bunia dans les territoires d'Irumu. Les acteurs de la société civile de Mambasa demandent aux autorités militaires de renforcer l'effectif des FARDC pour anéantir ces groupes armés et éviter que ces rebelles ne progressent au cœur du pays. Pour le moment, le bilan de ces opérations n'est pas encore disponible. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, la situation reste extrêmement volatile ce vendredi autour de la cité de Sake, mais aussi dans le groupement de Kanyabayonga. C'est du moins ce qu'estiment plusieurs sources contactées dans ces parties des territoires des Massis et des Rutshuru. Toute la journée hier, ces zones ont été le théâtre d'affrontements opposant l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23. Radio Kapigoma, Bernard Denyangi.
Autour de la cité de Sake, au lendemain des violents combats entre l'armée congolaise soutenue par la force de la SADC et les rebelles du M23, la situation reste tendue. Hier jeudi, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole des FARDC, affirmait que l'armée a réussi à stopper le mouvement des rebelles dans la région de Sake. Cependant, ce vendredi, ces rebelles ont lancé le matin de nouvelles bombes. Au moins 4 civils retournés qui se rendaient au champ à Lutobogo, près de Sake, ont été blessés, indiquent nos sources. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux jeudi soir, le M23 a affirmé avoir capturé des éléments de la SAMIRDC et détruit des véhicules militaires sur l'axe Sake-Kichanga en territoire de Masisi. L'armée congolaise n'a pas encore communiqué sur cet incident. Sake et ses environs restent tout de même sous le contrôle de l'armée congolaise. Sur le front nord, la situation est aussi tendue dans le nord de la chefferie de Bwito. Cela est consécutif à une avancée hier jeudi des rebelles M23 qui auraient occupé le village Bolindi à une dizaine de kilomètres de la commune rurale de Kanyabayonga. Ceci accroît une panique dans toutes les agglomérations du sud du territoire de Lubero. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord qui va encore en plus bref, les déplacés de guerre demandent au nouveau gouvernement de fournir plus d'efforts afin de faciliter leur retour dans leur milieu d'origine. D'après l'organisation Action pour la protection civile et le développement APROCID, ces milliers de personnes traversent des moments extrêmement difficiles depuis 2 ans, voire 3 pour certains. Le responsable de cette ONG appelle le gouvernement souminois à tout faire pour atténuer la souffrance de ces déplacés et récupérer les entités occupées afin que ces derniers puissent rentrer chez eux. Revenons à Ituri pour vous dire que près de 60 déplacés venus des sites de Bunia et des entités périphériques suivent une formation sur l'entrepreneuriat dans la chaîne de production agricole. Issus des associations paysannes, ils apprennent comment créer des activités génératrices de revenus. L'initiative est de l'ONG AFNAC, Association des femmes pour la nutrition assise communautaire, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'objectif est de promouvoir l'autoprise en charge et la réinsertion de ces personnes déplacées dans leur localité d'origine, une fois rentrées ou dans les communautés d'accueil. Le point avec Jean-Claude Loukidile.
Ces déplacés proviennent de nombreux sites dont Tsere, Nzere, Mbala, Kigonze, ISP ou encore Bembei. Pendant 18 jours, ils apprennent des notions sur l'entrepreneuriat et comment vendre les produits en ligne grâce aux réseaux sociaux en vue d'attirer des clients. Éminence Bengue est responsable de l'ONG AFNAC.
Ce sont des gens qui s'occupent de l'agriculture. Il fallait les former afin de se prendre en charge. Nous estimons que ça va les aider quand ils vont rentrer chez eux avec les peu de moyens qu'ils possèdent.
Guillaume Kazikima, cinquantenaire, vit sur le site de déplacés de Mbala. Il affirme que cette formation va l'aider à améliorer sa situation. Il compte transmettre ses enseignements à d'autres personnes en vue de vulgariser ses notions sur l'entrepreneuriat.
Cette formation est bénéfique pour moi. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, comment démarrer le commerce, comment bien mener les activités agricoles. Maintenant, je suis à mesure de bien tenir une activité commerciale ou agricole en vue d'obtenir une très bonne production. Je compte partager ces enseignements à d'autres membres de ma communauté pour qu'eux aussi puissent en bénéficier.
Plusieurs déplacés optent pour la relocalisation vers d'autres localités sécurisées en attendant la restauration de l'autorité de l'État dans des milieux où opèrent des groupes armés. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Comme annoncé au sommaire, nous sommes le 31 mai et le monde célèbre en ces jours la journée mondiale sans tabac. Pour cette année, le thème retenu est « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac ». À cette occasion, le Programme national de lutte contre la toxicomanie et le tabagisme a organisé une matinée scientifique aujourd'hui ici à Kinshasa pour sensibiliser la population et surtout les enfants sur la prise de tabac, une matière toxique sur la santé. Patrice Milambo Kapia, président de ce programme, explique le pourquoi de ce thème au téléphone de Étienne Lissoumbou.
Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Ce terme a été choisi puisque l'industrie du tabac, dans sa stratégie, utilise ou fait la promotion auprès des enfants, surtout les jeunes adolescents, pour les attirer à la consommation du tabac. Alors que le tabac est préjudiciable à la santé. Le tabac est à la base de beaucoup de problèmes de santé. Mais maintenant, l'industrie utilise plus les enfants actuellement pour les entraîner dans la consommation. Or, quand on consomme, on devient dépendant à la nicotine. C'est pourquoi l'OMS a choisi ce thème de protéger les enfants de l'ingérence. Les enfants sont exposés à cette ingérence, et non seulement à la promotion, mais aussi même à la publicité et au parrainage pour qu'ils puissent utiliser beaucoup de produits du tabac.
Santé, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum définit l'Institut One Health comme un cadre de formation, de recherche et d'intervention. Il faut que la population sente que l'INOA existe et apporte des solutions à ses problèmes, dont la pollution plastique, ajoute-t-il. Le directeur de l'Institut National de Recherche Biomédicale, INRB, et de surcroît directeur de l'Institut One Health pour l'Afrique, s'est réjoui du bon déroulement du colloque international One Health organisé ici à Kinshasa du 28 au 30 avril 2024 avec la participation des experts et scientifiques venus des quatre coins du monde. On écoute le docteur Jean-Jacques Muyembe au micro de Jean-Marc Matouaki.
Pendant les trois jours, nous avons partagé nos expériences dans leur complexité. On a essayé de sortir de nos disciplines pour entrer dans les disciplines des autres. Moi, je vous ai dit dès le départ que notre institut sera un institut de formation et de recherche d'abord. Il doit être aussi un institut d'intervention. C'est-à-dire, il faut que la population sente que l'INOA existe. Il faut que la population sente que l'INOA apporte solution à ces problèmes. Et j'avais parlé de la pollution plastique. Et je reviens à cela. Et autour de ce point-là, nous pouvons élaborer des projets de recherche, chercher les partenariats, chercher les financements pour qu'on voit que les choses ont changé depuis que nous avons notre institut. Et nous devons chercher à travailler ensemble, mettre toutes nos intelligences ensemble, toutes nos expertises ensemble.
Sachez que cet institut succède au Master d'écologie des maladies infectieuses de la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, 10 ans après sa création. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga, où les conditions de détention à la prison de Boma à Kipushi ne sont pas bonnes à cause notamment de sa surpopulation. C'est le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme dans cette province qui tire la sonnette d'alarme. Il dit avoir fait ce constat lors de sa visite dans cette maison carcérale le mardi. Joseph Nkongolo explique au micro de Jean Gandou.
Le premier constat, c'est que à la date de notre visite, il y a 386 détenus. Pourtant, la capacité d'accueil de 50 pensionnaires. Cet état de choses expose les détenus à plusieurs maladies compte tenu de la proximité. Le deuxième problème constaté est celui de la problématique de l'accès aux soins de santé. Dans cette prison, il n'y a qu'un poste de santé. Comme vous le savez, dans un poste de santé, on ne peut pas injecter et il y a d'autres produits qu'on ne peut pas donner. Un poste de santé est limité. C'est pourquoi nous avons rappelé notre plaidoyer d'il y a plusieurs mois auprès du chef de division provinciale de la santé de transformer cette structure médicale poste de santé en un centre de santé ou dispensaire pour que la prise en charge médicale des détenus soit correcte, efficace, globale.
Merci de nous écouter à Kindu, dans la province du Maniema. Sachez que les habitants du quartier Mbandaka, dans la commune de Mikelenge, ont réceptionné hier un puits foré par la Caritas Développement Kindu. C'est un ouvrage construit au profit des sinistrés de la récente inondation qui a créé d'énormes dégâts matériels dans ces quartiers. Les travaux de ces puits d'eau potable ont été réalisés dans le cadre du projet d'anticipation et des réponses d'urgence à la crise d'inondation fluviale où 3 puits ont été construits par Caritas Développement Kindu. Florence Kizalunga.
Réalisé avec la participation de toute la communauté de Lukunda, les bénéficiaires, surtout les femmes, remercient ces gestes de la Caritas. En Mbandaka, on souffre vraiment pour avoir de l'eau à boire, mais nous remercions Caritas pour les inondations de cette année. On nous offre un puits d'eau. On puisait de l'eau au fleuve et traversait même les rails pour chercher l'eau de la régie des eaux. Nous sommes dans la joie, nous avons de l'eau à boire parce que nous souffrons. Pour le président du conseil d'administration des Caritas Kindu, cet ouvrage est une réponse à la demande de la population de ces coins. Monseigneur François Abeli appelle à une utilisation efficiente de cet ouvrage.
Pour réaliser ces ouvrages, la Caritas Développement Kindu a effectué une dépense de 30 000 dollars américains en raison de 10 000 dollars américains par puits. Un comité sera mis en place pour assurer non seulement l'entretien, mais aussi et surtout la pérennité de l'ouvrage. Ce forage est un bien commun et doit être protégé par tous. Il n'est pas seulement à l'avantage des sinistrés.
Notez que les habitants de Lumbulumbu qui ont aussi les mêmes problèmes plaident pour la construction d'un puits dans leur quartier. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit gravement préoccupé ce 31 mai 2024 par l'augmentation des meurtres des civils au Burkina Faso et exige une enquête indépendante et transparente sur les allégations des violations des droits humains. Je suis profondément troublé par le fait que les forces de sécurité et de défense et leurs auxiliaires, les volontaires pour la défense de la patrie, auraient commis des meurtres gratuits, notamment des exécutions sommaires, écrit Volker Türk dans un communiqué, même s'il reconnaît que des groupes armés sont sans doute responsables de la grande majorité des incidents.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, l'on s'achemine vers la voie du rapprochement et de la cohabitation pacifique entre les communautés en conflit, à savoir Mbole et Lingola. En effet, trois jours après l'organisation conjointe par les bureaux des affaires politiques et des droits de l'homme de la MONUSCO, d'un atelier de renforcement des mécanismes de résolution pacifique des conflits, les deux parties ont manifesté la volonté d'avancer. Quelle est la perception des communautés Mbole et Lingola par rapport à ces conflits? Et quelle est la principale recommandation formulée au terme de cet atelier? Le facilitateur de ces assises, le professeur Alphonse Maindo, répond aux questions de Jacques Moukonkolé.
L'atelier ayant regroupé les délégations Mbole et Lingola vient de s'achever. On a l'impression, professeur, que les causes de ces conflits ne sont pas perçues de la même façon.
Non, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et ce que nous-mêmes on pensait avant, il y a eu une espèce de consensus ici. Toutes les parties ont affirmé haut et fort que dans ce conflit, il y a une dimension éminemment politique qui n'est pas dite. Et ça, c'est déjà un point positif. Il y a deux autres éléments qui sont d'ordre tout à fait administratif et qui sont reconnus et pratiques, qui sont reconnus par toutes les deux communautés. C'est quoi? C'est qu'il y a un problème de terre, un problème de limitation active de différents espaces, notamment le territoire de Bundu, le territoire de Dobala, la ville de Kisangani, le Bouyabera. Et donc, c'est ces chevauchements-là avec plusieurs administrations parallèle qui fait problème. Toutes les deux communautés reconnaissent ça, mais chacun l'exprime dans ses mots à elle. Le deuxième élément que toutes les deux communautés ont reconnu ici, c'est le fait qu'il y a une déficience de l'État en termes de sa capacité à pouvoir gérer correctement tout ça. Et ça, c'est véritablement un appel qui a été fait à l'État pour assumer sa responsabilité. Donc, il y a un consensus sur beaucoup plus d'éléments. Nous, on craignait qu'il y avait beaucoup plus de divergences, mais en fait, plus, il y a les ressentis. C'est là qu'il y a une grande différence entre les deux communautés. Il y a les ressentiments que chaque communauté vit en s'estimant victime des actions de l'autre. Et ça, c'est normal dans ce type de contexte.
Est-ce que cet atelier pourrait avoir un impact dans l'organisation de la table ronde qui est voulue par tous?
Alors, il faut dire que ici, ce que nous avons aussi aimé, puisque cet atelier ne s'est pas limité à réfléchir sur comment on peut résoudre les conflits et quelles sont les causes des conflits, quelles sont les conséquences du conflit qui oppose ces deux communautés et quelles sont les parties prenantes et comment on peut, on est allé aussi plus loin pour regarder comment on peut résoudre ces conflits-là et quelles recommandations on peut faire. Et je me réjouis qu'une recommandation phare, toutes les parties, aussi bien la communauté Mbole avec ses alliés que la communauté Lingola et ses alliés, toutes les parties ont vraiment affirmé haut et fort l'urgence d'organiser une table ronde dans les plus brefs délais.
Professeur, a-t-on précisé quand elle pourrait avoir lieu?
Certains ont dit qu'il fallait le faire ici même au mois de juin, et d'autres ont dit non, pour prendre un peu plus de temps de préparation, qu'on mette ça au plus tard au mois de juillet. Donc on voit là qu'il y a une convergence et les gens ont exprimé le vœu que ce soit les gouvernements centraux, les gouvernements provinciaux qui prennent en charge l'organisation de cette table ronde-là et qu'elle soit inclusive et qu'elle puisse donner aussi, si vous voulez, des garanties aux participants qu'ils ne seront pas inquiétés pour les opinions qu'ils auront exprimées et tout ça. Donc il n'y ait pas des gens qui puissent être inquiétés après parce qu'ils ont parlé au cours de cette table ronde-là. Et donc on voit là qu'il y a une volonté réelle des différentes parties, en tout cas qui étaient ici, qui représentaient les différentes communautés, d'aller de l'avant. Et aussi, ils ont demandé que la communauté internationale, la société civile et toutes les personnes de bonne volonté puissent les aider par divers mécanismes, y compris d'ailleurs, j'ai entendu les gens dire qu'il faut un culte œcuménique qui soit fait avant, pendant et après la table ronde. Donc il y a une réelle volonté pour qu'on puisse aller de l'avant.
Concrètement, comment cette volonté peut-elle se manifester? manifester.
Ils ont exprimé même des choses beaucoup plus pratiques, de dire voilà, il y a des mariages mixtes entre les communautés et que à l'occasion de la table ronde qui pourrait avoir lieu, qu'il y ait une officialisation des couples qui sont en cohabitation mais qui n'ont pas encore officialisé leur mariage devant l'officier de l'état civil ou devant l'église. Et que ces jours-là, ces gens puissent faire ça pour symboliser cette consolidation des liens entre les deux communautés. On voit qu'il y a une volonté d'aller de l'avant.
Quels seront les objectifs de cette table ronde?
Alors, d'après ce que nous avons compris, des premiers échanges qui ont été faits ici parce qu'ils ont décidé de mettre en place une commission préparatoire qui devrait donc définir clairement de plus en détail les objectifs, les participants, la méthodologie, les modalités pratiques de cette organisation. Mais en attendant, de manière générale, l'objectif qui a été exprimé ici haut et fort, c'est que cette table ronde devrait permettre d'établir les responsabilités des uns des autres et pour permettre une réconciliation et une paix durable entre ces deux communautés qui sont frères. Et j'ai aimé des mots assez forts que certains ont pu utiliser ici, certains participants, pour dire que ces deux communautés, que la nature a voulu que ces deux communautés puissent se partager même les frontières communes, même un espace commun, et qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain pour dire nous on se déplace avec notre bout de terre. Et donc ils sont condamnés, le mot qu'ils ont utilisé très fort, à vivre ensemble. Donc il faut qu'ils renforcent ça.
Merci professeur.
Je vous en prie.
Notre invité, le professeur Alphonse Maindo, s'entretenait avec Jacques Moukonkole depuis la ville de Kisangani. Par ici s'achève ces radiojournal coordonnées par Jacques-Yves Molima et supervisé par Jude Mister Bilanda. Debs Vita a assuré la mise en onde. Ce journal est à réécouter sur www.radiocapi.net. Merci de rester des nôtres.